Seigneur soit béni. Oui, j'ai imposé le calme et le silence. C'est écrit où ça dans la Bible? Psaume 131. C'est bien. Ce soir, c'est un sujet très simple que nous allons aborder, apprendre ou réapprendre à faire confiance. Vous savez ce que Jésus a dit à moi? Jésus a dit, lorsqu'il a invité les hommes à découvrir le repos, il a dit, venez et apprenez de moi. C'est écrit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il ajoute, venez et prenez et recevez. Qu'avez-vous appris? Est-ce que vous avez appris depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, depuis combien de temps, hein? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris, hein? Regardez quelques versets avec moi. On va les lire, notez-les, parce que quand même, dans la vie spirituelle, comme on vient de le chanter, il faut apprendre. Il faut recevoir. Le problème dans les églises, c'est que beaucoup de gens écoutent ou entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils entendent des prédications, ils sont d'accord, ils se sont repentis, ils ont été touchés par le calvaire, ils savent que c'est vrai et ils mettraient leur main à couper, ils ne mettront jamais en question la parole de Dieu, mais ils n'apprennent pas. Et regardez quelques passages de l'apôtre Paul. Pour vous indiquer que le problème, il est là. Philippiens chapitre 4. C'est des textes qui prouvent combien on a besoin de se retrouver sous le regard du Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 12. C'était quand même quelqu'un, l'apôtre Paul. Hein? Et regardez tout ce qu'il dit. Philippiens chapitre 4, il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. C'est pas beau ça? Ouais, vivre dans la bénédiction, vivre dans l'épreuve. En tout et partout, j'ai appris. Oui, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. C'est pas beau ça? Vous voyez? 1 Thessaloniciens chapitre 4. On voit des gens qui se sont tenus au pied du Seigneur, qui ont vécu vraiment le dernier cantique qu'on vient de chanter. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. C'est beau ça, quand dans une église on peut dire vous n'avez pas besoin. Car vous avez vous-même appris de Dieu. Alors, vous avez vu comment ils l'ont appris? De qui ils l'ont appris? De Dieu. Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous avez appris de Dieu? Vous avez vu tout ce qu'on peut apprendre quand même? De Dieu lui-même. C'est magnifique, ce témoignage qui est rendu aux Thessaloniciens. Des fois, on dit, oui, telle église, il y a tel problème. Mais là, je peux vous dire qu'on peut les louer. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent, vous avez vu? Qu'ils apprennent. Donc il faut leur apprendre. Avant tout, à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous voyez, apprendre à exercer la piété. Après, je vous le lis, dans Tite, ne cherchez pas, 2:4, apprends aux jeunes femmes à aimer leur mari. Et même ça s'apprend. Vous voyez, est-ce qu'une femme âgée peut apprendre une jeune maman ou une jeune mère à aimer son mari? Eh bien oui, oui, par l'expérience. Psaume 119, 71, 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne, etc. Même Jésus a appris. Qu'est-ce qu'il a appris, Jésus, au fait? Par quoi il a appris l'obéissance? Vous voyez, comme quoi on devrait être mais sensible à ces choses. Le maître qui était saint, sans tâche, sans péché, etc. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Comme quoi, vous voyez, des choses qu'on est obligé de les apprendre, même si on est dans un état de sainteté, de fidélité, d'obéissance, on apprend certaines choses que par la souffrance. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un psaume que peut-être certains pourraient réciter par cœur. C'est le psaume 23. J'en parle pas souvent, on parle souvent des psaumes difficiles, où David exprime beaucoup de souffrance, mais il y a quand même le psaume 23. Vous le connaissez, le psaume 23 ? Psaume 23, verset 1er. Vous connaissez ce psaume, il est au singulier, à la première personne du singulier. Est-ce que vous aimeriez vous aussi dire, c'est mon psaume? Je veux m'identifier à ce psaume. Il faut que quand on sorte tout à l'heure, on ait fait des progrès dans la compréhension de ce psaume, même si plusieurs d'entre nous, certainement, nous pourrions le réciter par cœur. On le lit, s'il vous plaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ces psaumes, ils sont comment pour vous? Ce psaume, vous le connaissez, d'accord? C'est quoi un psaume familier? On dit souvent qu'il y a des paroles, des textes familiers. Il y a des textes qui sont tellement connus qu'on en oublie la signification. Ça fait que quand on les lit, on ne retient pas ce que Dieu voudrait que nous retenions. Quand vous lisez Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare, vous savez que Jésus va ressusciter Lazare. Donc tout ce qui précède, on n'arrive pas à en obtenir l'enseignement. Quand vous lisez l'épreuve d'Abraham, lorsqu'il a dû sacrifier son fils, on ne lit pas tout ce qui précède ce chapitre 22. Parce qu'ils sont devenus familiers. Mais mes frères et sœurs, est-ce que ce soir, vous pouvez devant Dieu dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas si vous réalisez tout ce que ça représente dans une vie, une assurance, et puis en plus c'est au singulier, vous voyez, c'est je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire oui, c'est mon histoire. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Pouvoir dire, Seigneur, tu es mon berger. Vous pouvez le dire, Seigneur est mon berger. Je lui obéirai. Je l'écouterai, je ferai attention, je ne m'en éloignerai pas. Je resterai à côté de lui parce que je ne veux manquer de rien. Beaucoup de chrétiens sont faibles. Ils sont faibles. Est-ce que j'exagère? Il y a des chrétiens qui sont tout le temps. Alors ils sont découragés et puis ils découragent les autres. Et puis ils affligent les autres. C'est terrible quand les chrétiens sont comme un troupeau dans le désert. Dans un troupeau dans le désert, qui a envie de le rejoindre? Si un rétrograde revient dimanche, vous croyez qu'il va être, il va avoir envie de... Imaginez, je l'ai déjà dit, imaginez un troupeau dans le désert, des brebis toutes maigres, avec des parasites partout. Rejoignez-nous! Imaginez un troupeau dans le désert, dans le sable, là, toute sale, avec des ecchymoses partout, de la fièvre. Rejoignez-nous! La brebis, écoutez, sans façon, c'est vrai ou c'est pas vrai? Franchement, on rit, mais il n'y a pas des églises qui sont comme ça? Ça fait mal au cœur quand même. Un chrétien, il doit pouvoir se dire à un moment donné, mais je veux m'identifier, il est mon berger. Je sais le prix que Jésus a payé pour qu'il devienne mon berger. Et il faut les apprendre. Le but, c'est d'apprendre. Vous avez vu l'apôtre Paul, on n'a pas pris tous les textes. J'ai appris. Ça ne vous rassure pas un homme comme l'apôtre Paul qui dit j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Ça ne vous rassure pas en tout et partout. J'ai appris. Est-ce que vous vous rendez compte la faveur que c'est? Et quand on a appris, on peut partager avec les autres. Les chrétiens, ils ne peuvent rien partager. Ils n'ont rien reçu, donc ils ne peuvent rien donner. Ils sont tout le temps vides et ça affaiblit le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je partage avec les autres? À la fin de la réunion déjà. Qu'est-ce que je donne aux autres? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que j'apporte aux gens que je côtoie dans l'église? Est-ce que les autres vous font du bien? Est-ce qu'il y a des gens qui vous font du bien? Est-ce qu'il y a des gens, ah, ça me fait toujours du bien quand je discute avec lui? Et pourquoi une personne qui a le même nombre d'années de conversion, qui a le même âge, qui a la même église, vous dites, cette personne-là, je fais tout pour l'éviter? Oui ou non? Elle écoute la même prédication, elle a le même nombre d'années de conversion, elle a fait des expériences, ça me tue, en voilà, et pourtant une, vous la fuirez, et la même personne qui est dans le même restaurant, vous la fuyez. Et l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui apprennent. Ils apprennent certaines choses et ils peuvent les partager. Et le but, c'est ça. L'apôtre Paul, il a reçu. Il l'a appris. Et moi, je voudrais que ce soir, on puisse faire le point avec ce psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et que la nourriture, il faut l'avaler, il faut la mastiquer, il faut la digérer, il faut s'en nourrir, il faut que nos pensées soient imprégnées, comme Paul qui dit de rendre les pensées captives à l'obéissance. Vous aimez aller au restaurant? Prouvez-moi-le. Hein? Prouvez-moi-le. Il n'y a pas certains restaurants où vous aimez aller. Il n'y a pas des fois où vous aimez bien manger. Il n'y a pas des fois où vous aimez vous faire plaisir. Ça vous est jamais arrivé? Oh, je sais qu'on va bien manger. Allez, bientôt, là, peut-être, il y aura un repas de Noël. On est content des fois. On s'est bien repu. Est-ce que c'est une bénédiction? Ben oui, c'est une bénédiction. Mais mes frères et sœurs, spirituellement, on devrait le vivre, ça. Peut-être pas tous les jours, mais quand même, le plus régulièrement possible, amener ses pensées dans notre tête. C'est pour ça que la Bible parle souvent du casque du salut, de protéger sa tête, de protéger son âme, de protéger son cœur, etc. Comment protégeons-nous nos pensées? Est-ce que c'est demandé de protéger nos pensées? Est-ce qu'il est demandé d'aimer Dieu de toute sa pensée? Eh oui, voilà. Comment Dieu peut-il être notre berger si nous nous éloignons de lui? L'Éternel est mon berger. Vous êtes heureux si vous pouvez le dire vraiment, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une église que le Seigneur est notre berger. Oui, quand Dieu est votre berger, je peux vous dire qu'il vous accompagne. Il vous accompagne. La fin de ce psaume, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Vous vous rendez compte, l'honneur? Le Seigneur m'accompagnera tous les jours. Moi, j'ai peine quand quelqu'un me dit « Oh, mon psaume, mon psaume préféré, c'est le psaume 23. » Et quand je vois les propos après, je peux vous dire qu'ils sont à 10 000 lieues du psaume 23. Il ne faut pas affectionner certaines choses, il faut apprendre. Apprendre et continuer à apprendre. Un berger, il nous conduit dans les eaux paisibles. Vous croyez que Dieu vous conduit en ce moment? Est-ce que Dieu vous conduit? Ou est-ce que vous dites « Ah, mais en ce moment, je suis entre deux pâturages. » Parce que des fois, il y a des sentiers entre les pâturages. Une brebis ne reste pas toujours dans le même pâturage. Il y a des passages à vide. Vous savez, quand on parle de... Comment ça s'appelle au printemps, là, quand on appelle les... La transhumance. Des fois, il y a des heures de marche. Des heures de marche. Donc, d'un pâturage à un autre, il peut y avoir des sentiers compliqués. Peut-être en ce moment, vous êtes sur un sentier où Dieu est en train de vous amener à un autre pâturage. Est-ce que vous acceptez que le Seigneur vous conduise? Est-ce que vous lui faites confiance sur ce sentier? Est-ce que vous lui faites vraiment confiance ou est-ce que vous croyez qu'il se moque de vous? Il a tout préparé. L'Éternel est mon berger, ça veut dire il me conduit, il me dirige. Alors pourquoi on est inquiet? Pourquoi vous êtes inquiet en ce moment? Alors qu'il a promis de vous conduire. Il a promis même, je vous le répète, si vous êtes dans un moment où vous ne mangez peut-être pas suffisamment, il vous conduit. J'ai lu une histoire, et j'aimerais vous la rappeler. C'est dans une église, c'est un pasteur qui a eu l'idée, ça s'est passé vraiment. Il a demandé, est-ce que quelqu'un, il allait prêcher sur le psaume 23, et il a demandé, voilà, est-ce que quelqu'un veut lire le psaume 23? Alors, dans l'église, il y avait un acteur professionnel qui s'est converti, et il a lu le psaume 23. Alors il a lu, bien sûr, comme il était acteur, avec beaucoup d'éloquence, et quand il a lu le psaume, tout le monde a applaudi. C'était pas Sainte-Anne, bien sûr. Dans cette même église, il y a un vieillard derrière lui qui a dit, moi, est-ce que je peux lire le psaume? Un vieillard. Et le vieillard, il a lu le psaume, et là, pas d'applaudissements, mais un immense silence. Et l'acteur, il s'est levé et il a dit voilà, il a dit exactement ça. Je connais le psaume du bon berger. Et le vieillard, lui, il connaît le berger. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est exactement ça. La façon dont ce vieillard a lu le psaume a prouvé à toute l'assemblée que lui, il connaissait le berger. Et mes frères et sœurs, c'est ça que Dieu veut. Quand on dit l'Éternel est mon berger, moi je peux vous le réciter par cœur. J'ai appris des psaumes par cœur. Je peux vous les réciter, mais ça ne sert à rien. Mais est-ce que ce soir je peux dire oui, l'Éternel? Vous rendez compte, on peut s'identifier. En plus, il n'est pas dit l'Éternel est le berger de David. Mon berger, vous rendez compte, Dieu veut que certains psaumes, de manière si singulière, nous amènent à réfléchir. Oui, je peux le dire, le Seigneur, il est mon berger, il me conduira. Vous êtes sûr que Dieu vous conduira? Près des eaux paisibles, il le sait même en ce moment, si la voie elle est compliquée. Hier matin, je me suis réveillé avec cette histoire de Joseph, et justement, je récitais dans ma tête un psaume par cœur que j'ai appris, le psaume premier. Et des fois, quand je ne dors pas, je me récite des versets. Voilà, je suis à l'école, je récite, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, etc. Et j'ai pensé à Joseph, et je me suis dit, tiens, tu vas relire l'histoire de Joseph. Cet homme, vous rendez compte, pendant 13 ans de souffrance à cause de son obéissance. Est-ce que Dieu le dirigeait? Est-ce que vraiment Dieu le dirigeait? Il était à l'étranger, esclave, battu par ses frères. Il a été emprisonné parce qu'il a voulu rester droit. Il a refusé de coucher avec une femme, certainement extrêmement belle. Et il savait que ça allait lui coûter, etc., 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 etc. Est-ce que Dieu le dirigeait? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu dirigeait Joseph? Oui, mes frères et sœurs, cette assurance. L'Éternel est mon berger, je ne tournerai pas. Je resterai avec lui. Il me dirige. De quoi avez-vous besoin? On a besoin de faire pâturage, des eaux paisibles. Vous savez, moi je suis de la ferme, je suis de la campagne. Et les maisons, tout ça, qui avaient des troupeaux m'ont dit, tu sais, une brebis, elle ne s'arrête, elle ne se couche jamais. Tant qu'elle n'a pas, si elle a peur, ou si elle n'a pas mangé. Et quand David dit « il me fait reposer », c'est sûr, ça indique une brebis qui a suffisamment mangé et qui n'a pas peur parce qu'elle sait que le berger veille sur elle. C'est ça que ça veut dire. Et ça vaut la peine de s'informer. En plus, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez tout savoir sur les brebis, tout savoir. Et quand vous comprenez que Dieu nous compare à des moutons, il y a des choses qui sont vraies. Quoique les moutons, ils obéissent quand même, ils suivent. Ils suivent bêtement. Nous, on ne suit pas bêtement souvent. Mais bon, aussi Dieu nous a donné une responsabilité, une intelligence. Mais les brebis ne se couchent que lorsqu'elles sont nourries et qu'elles n'ont pas peur. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur? Du lendemain? Tout à l'heure, vous allez vous coucher. Est-ce que vous allez vous coucher dans la paix? Heureux, heureux ceux qui se couchent et qui s'endorment en paix. Heureux. Il y a déjà, ils ont toujours peur parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence du berger. Les eaux paisibles, on a besoin d'eau paisible, on a besoin de paix. S'il y a bien un endroit où on est bien, c'est dans l'église, où on doit être vraiment en paix. Il restaure mon âme, je fais vite parce que il est court, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il restaure mon âme. Voilà, pour moi, c'est le pivot du psaume. Que notre âme soit restauré. C'est bien d'être nourri et désaltéré, c'est bien. De temps en temps, de se nourrir, d'avoir un culte, d'avoir une bonne réunion, d'être désaltéré, ça m'a fait du bien, j'avais besoin. Mais de pouvoir dire, il me restaure, il me guérit aussi, il me restaure. Vous savez, il y a des moments, c'est pas facile le chemin, c'est pas vrai? Il n'y a pas des moments où c'est difficile? Pensez au moment qui a été le plus difficile de votre vie, tiens, pensez-y. Vous avez tous un moment de votre vie, non? Vous rappelez le moment qui a été le plus difficile de votre vie? Mais est-ce que quelqu'un peut dire, moi, le moment le plus difficile, ça a été cette période de ma vie? Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, à peu près tout, tant mieux. Mais il soit le Seigneur. Mais je pense quand même que tous, on peut dire, là, j'ai eu un gros problème. Vous vous rappelez de ce moment? Est-ce que vous pouvez dire, eh bien, il m'a restauré. À ce moment-là, j'avais besoin de lui. Vous savez, quand il est dit « il restaure mon âme », ça veut dire qu'il saura dans le moment où je me trouve, il saura ce dont j'ai besoin. Vous savez, moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 142. On peut le lire si vous voulez. J'aime ce psaume, ce verset. C'est un verset qui m'a beaucoup fait du bien à une époque. David, là, il n'est pas dans le... Là, il n'est pas dans les verts pâturages. Là, il n'est pas dans les eaux paisibles. Il est dans une caverne et il fuit. Vous voyez comme quoi il y a toutes sortes de moments. Il était dans la caverne. Et regardez la fin du verset 4. Là, il n'est pas restauré. Là, il est abattu. Mais regardez quand même cette présence d'esprit qu'il a. Psaume 142, verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Comment vous avez dans votre Bible? Voyez, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Des fois, nous, on ne sait pas trop sur quel sentier on est. On ne le sait pas trop, des fois, oui ou non. Des fois, tiens, je crois que ça va, je crois que ça monte, ou des fois, ça descend, je crois que c'est plat et ça monte un peu. Vous voyez, on ne sait pas toujours le sentier, mais lui, il le sait. Dieu, il le sait, votre sentier. Vous voyez, ces psaumes, ils ont été écrits, pas parce qu'il était abattu, mais parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Ça confirme bien ce qu'on lit dans le psaume 23, c'est le Seigneur est mon berger. Vous savez, on peut être vite paralysé. Vite paralysé. Une autre parole, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas que la justification. C'est-à-dire le fait que par la foi, on sait que le sang de Jésus nous a justifiés. Il y a la justice. Chercher le royaume de Dieu et la justice. Il me conduit dans ce qui est juste. Ça, ce n'est pas juste. Je ne l'accepte pas. Ça ne va pas. Je ne le fais pas. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Heureux l'homme qui pratique la justice. Je fais ce qui est juste, même si je subis des injustices. Vous ne croyez pas que David, ce psaume, il a dû le composer quand il était berger, d'accord? Ou quand il était roi? Quand est-ce qu'il a composé ce psaume? Quand il était berger ou quand il était roi? Hein? On ne sait pas. Mais en tous les cas, vous vous rappelez quand il était berger et qu'un jour est arrivé à sa maison le grand prophète Samuel? Et que le papa et certainement la maman, ils ont fait venir tous les fils, parce que la plus haute personnalité du pays venait à la maison, et voilà qu'ils n'ont même pas fait venir David. Ils l'ont laissé dans les troupeaux. Vous croyez que c'était juste ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais lui, il a appris à marcher dans la justice, même s'il a subi l'injustice. Et c'est là la grâce. De pouvoir arriver à dire, mais même si je subis de l'injustice, même si mes frères sont injustes, même si mon père est injuste, même si les gens qui m'entourent ne me connaissent pas, parce que s'ils l'ont pas fait venir, c'est qu'il y avait quand même un gros problème sûrement. Vous voyez-vous en train de dire à 5 ou 6 de vos fils, tu viens, il y a telle personnalité qui vient à la maison, et à l'autre, non, on lui dit même pas, c'est pas la peine, qu'il reste à son truc. Vous vous voyez en train de faire ça, un de vos enfants? Et c'est ce qui s'est passé. Et David a été, malgré tout, conduit dans la présence de Samuel. Et il est resté humble, il repartait à ses moutons. Il a pas dit, moi je serai le futur roi. Vite, office dépôt, les nouvelles cartes de visite. Ancien berger, nouveau roi. Non mais, je vous dis ça, bien sûr, je plaisante. Mais mes frères et sœurs, il est resté humble. Il connaissait le berger, il le connaissait. Moi je voudrais qu'on reparte ce soir en disant, Je veux le connaître davantage. Il me remettra sur pied. Il me restaurera. Oui, je sais qu'il y aura des moments, le chemin montera un peu plus que ce que j'avais pensé. Ça fait rien. Je veux marcher dans les sentiers de la justice. Ce que Dieu demande, je le ferai. Moi, je vous assure, tout hier, j'ai été interpellé par cette histoire de Joseph. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Ce jeune homme qui a vraiment vécu que de l'injustice. Que de l'injustice. Et lui, il était dans la paix. Il connaissait Dieu. Il le connaissait. D'ailleurs, c'est certainement pour ça que Dieu l'a utilisé. Mais il ne pouvait pas devenir premier ministre, être propulsé en 24 heures à ce poste. Il ne pouvait pas devenir l'homme qu'il allait devenir sans être à l'école. Il y a des écoles. Peut-être que Dieu vous appelle à faire telle ou telle chose, mais il faut accepter qu'il y ait de l'école. Parce qu'on peut vite, est-ce qu'on peut vite s'enorgueillir? Et Dieu, il le sait. Dieu ne s'est pas moqué de Joseph. Dieu a permis pendant 13 ans d'épreuves, mais d'immenses épreuves, on ne peut même pas s'imaginer. Et lui, vous ne le voyez jamais bronché. Au contraire, les gens, les étrangers, donc Potiphar, etc., le chef de la prison, voyaient que Dieu était avec lui. Alors, comment ils voyaient que Dieu était avec lui? Parce que ce n'est pas écrit. Potiphar a vu que Joseph marchait avec Dieu. Le chef de la prison a vu. Comment ils l'ont vu? Comment ils l'ont vu? Est-ce qu'il avait un t-shirt écrit? Ou peut-être, moi je pense que Joseph devait prier par exemple. Peut-être les gens l'ont vu prier, tu sais, ils prient son Dieu, parce que là-bas ils avaient une foule de dieux pas possible. Mais en fait, ils l'ont vu. Et vous savez, quand je vois le nombre de chrétiens, parce qu'ils ont une épreuve, une contrariété, oh, tu comprends, si tu étais à ma place, eh bien tu verrais. Ah ben Joseph, lui, il était dans l'épreuve, vraiment dans l'épreuve. Et les gens voyaient que Dieu était avec lui. Mes frères et sœurs, qu'on soit dans l'épreuve, ou qu'on soit dans la bénédiction, je pense que si vraiment Dieu est notre berger, les gens verront que Dieu est avec nous. Et ne nous autorisons pas à pratiquer des choses, d'avoir un comportement injuste, parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a cela. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Je fais ce qui est juste. Je pratique la justice. Et c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Regardez dans le livre des Actes. Il y a des textes comme ça quand même qui, je ne sais pas si vous les lisez régulièrement, mais quand même, c'est des choses qui sont fortes, très fortes. Regardez Actes chapitre 10, verset 35. Ce sont des textes qui m'ont marqué, vraiment marqué. Vous savez, comme des panneaux sur un chemin, voilà, vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, vous voyez tous les 3-4 kilomètres, 130, rappel. On a besoin, il y en a qui en ont besoin en tous les cas. Ouais. Il y en a qui en ont besoin. Mais ça, pour moi, c'est des panneaux indicateurs. Actes chapitre 10, verset 35, quand même, regardez-le mes frères et sœurs. En toute nation, c'est pas pour les juifs ça, c'est pour tout le monde. En toute nation, celui qui le craint, et qui pratique la justice, qu'est-ce qu'il est? Il est agréable à Dieu. Je le relis. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Joseph, David, malgré leur lutte, leurs combats, leurs épreuves et l'injustice, vous le voyez, c'est clair, même si David s'est loupé quelquefois, ouf, presque on a envie de dire, ça prouve que... Mais il s'est vraiment repenti, il a repratiqué la justice. Il y a des chrétiens qui ne pratiquent pas la justice. Mes frères et sœurs, ne nous imaginons pas que la justice, c'est la justification, ça serait un grand danger. Il faut lui donner du temps, il faut lui donner du temps au Seigneur pour qu'il... comme on l'a chanté, mon âme en silence. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous vous rendez compte? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. C'est pas beau ça? La vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Moi j'ai lu plein de commentaires, pour certains c'est le moment où on va mourir, que dans le moment où on va mourir, eh bien, sa présence sera là et il nous donnera ce qu'il faut par rapport à l'épreuve en question. C'est évident. C'est évident. C'est sûr. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est vrai qu'il n'y a pas que les verts pâturages et les eaux paisibles. Il y a les moments difficiles, très difficiles, qui peuvent nous faire craindre à des choses sévères, etc. Je ne crains aucun mal. Et Dieu le voit, ça. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute et dire, Seigneur, parle-moi. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a des dangers. Vous ne croyez pas que Dieu vous a protégé jusqu'à aujourd'hui? Vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Heureusement. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si chaque fois que Dieu vous a protégé, un ange vous était apparu et vous a dit, c'est moi qui t'ai protégé, je suis ton ange. Qu'est-ce que vous auriez dit le dimanche au culte? Poussez-vous, j'ai un truc à dire. L'ange qui me protège. Il m'est apparu à moi. Vous ne croyez pas que si on voyait dans l'invisible, ça nous enorgueillerait? Mais Dieu a créé l'invisible, il sait ce qu'il fait. Il est plein de sagesse. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez dire ce soir, en partant, quand je marcherai dans la vallée, quand je devrai mourir, le Seigneur sera avec moi? Vous le croyez ça? Vous le croyez que, comme pour Lazare, les anges vous porteront dans la présence, dans la présence de Dieu? Vous le croyez, ça? Ou est-ce que vous le croyez? Bon, c'est bien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, le berger, il sera. Tu es avec moi. Moi, je sais qu'il y a des luttes, il y a des combats. Mais moi, quand je lis ça, tu es avec moi, eh bien, ça me fait du bien. Allez, une autre parole. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Tu induis ma tête. L'onction du Seigneur, par sa parole, ses mains bénies. Et là, c'est pour ça qu'il faut être toujours à sa portée. Parce que si vous êtes tout le temps loin du Seigneur, vous ne pourrez jamais dire « tu induis ma tête ». Parce que pour que les mains du berger se posent sur notre tête, sur notre corps, sur notre âme, il faut être à portée de ses mains. Ça nous prouve une fois de plus que la présence de Dieu, il ne faut pas s'en éloigner. Vous êtes d'accord? Beaucoup de chrétiens ne vont pas bien, ils sont trop loin du Seigneur. Ils ont laissé trop de choses l'éloigner d'eux, du Seigneur. Quand Jésus dit, mais ce peuple, mon heure des lèvres, mais son cœur est éloigné. Il y a un problème grave. On chante et en même temps on est loin de lui. On l'honore des lèvres, mais le cœur est loin. Mais quand vous êtes à côté de lui, et je défie quiconque de rester le temps qu'il lui faut, dans la présence de Dieu, ses mains se poseront sur vous. Et le berger, il connaît justement toutes les blessures, toutes les fièvres, toutes les maladies qu'un berger peut voir sur ses brebis. Je me rappelle quand le pasteur qui m'a formé, il m'a dit, Gérard, je ne veux pas te décourager, mais dans un troupeau, je me rappelle, il y a toujours une brebis qui boite. Ça vous prépare au ministère, ça. Il y a toujours une brebis, et c'est vrai, dans un troupeau, il y a toujours un chrétien qui ne va pas bien. Bon, quand c'est qu'un, ça va. Quand c'est qu'un. Mais ça peut arriver que si on ne soigne pas un, le deuxième se met en mouvement, etc. Il y a des maladies contagieuses. Et il y a des mouches venimeuses. Vous savez qu'il y a des mouches méchantes? Vous le savez? Est-ce que vous le savez qu'il y a des mouches venimeuses? Il y a des insectes qui sont mauvais. Des petits insectes. Il y a des petites choses qui peuvent infecter. C'est d'ailleurs l'Ecclésiaste qui dit, mais fais attention parce qu'une mouche peut infecter l'huile dans le vase. Il ne faut pas grand-chose pour que l'huile soit infectée. C'est pour ça qu'on doit veiller, et le diable, il le sait, qu'il y a des petites plaies qui peuvent dégénérer, s'infecter, etc. Et l'onction nous parle bien sûr de bénédiction. Tu induis ma tête. Seigneur, touche-moi tout à nouveau. Je resterai dans ta présence le temps qu'il faut. Mais touche-moi tout à nouveau. Cette affaire du psaume 23, il faut que je reprenne ça à cœur. Il faut qu'il y ait sa guérison sur ma vie. Il y a des chrétiens qui ont besoin de guérison. Même, je ne parle pas de guérison physique. Je parle de guérison spirituelle. Et si le Seigneur est notre berger, il n'y a aucune raison que l'on n'expérimente pas ce qu'il faut. Il sait l'huile dont on a besoin. Les bergers, ils ont de l'huile, ils ont des produits. Certains ont des parfums, des épices pour éloigner les moustiques. Vous savez, nous, aujourd'hui, on met des géraniums pour faire joli. Mais en vérité, les géraniums, c'est pour éloigner les moustiques, vous voyez. Et c'est pareil. Moi, j'ai regardé un peu sur les bergers, et c'est vrai qu'ils ont de l'huile avec certaines épices pour faire fuir les bestioles, justement. Le Seigneur, il sait ce dont vous avez besoin. Et quand vous lirez, vous savez, je lisais tout à l'heure, toi, tu connais mon sentier. Moi, c'est de la vérité. C'est de l'huile, ce verset. Tu connais mon sentier. Moi, c'est de l'huile. Quand je le lis. Parce que je sais, Seigneur, tu vois, si je ne suis pas trop où j'en suis, toi, tu sais où je suis. Et tu sais ce dont j'ai besoin. C'est sérieux. Vous savez, on croit connaître les psaumes. Mais pouvoir dire rien que ça, tu induis ma tête. Et attendez, ma coupe déborde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la guérison, elle n'est pas à moitié. Ça veut dire que cette guérison, tiens, j'ai besoin de paix tout à nouveau. J'ai besoin de paix. Il faut que cette paix déborde. Vous croyez que Dieu est puissant pour vous donner de la paix? J'ai besoin de la joie du salut, Seigneur. La dernière épreuve m'a fait perdre la joie. Il faut que cette coupe, elle déborde. Je veux être joyeux. Tiens, dimanche, c'est moi qui vais faire chanter. Je veux avoir la joie du salut. C'est important, ça, vous voyez? je vais inviter peut-être des amis à Noël. On leur a parlé du Seigneur 50 fois, mais qu'ils voient cette joie qui déborde. Vous savez, c'est magnifique dans ce monde de ténèbres d'inviter des gens, de ne pas leur parler du Seigneur et qu'ils voient que notre coupe déborde. C'est pas une grâce, ça? C'est pas une bénédiction? Un repas de famille, personne n'a parlé de Jésus à part à table pour rendre grâce. Et les gens ont vu que la coupe, elle débordait. La façon dont on se parle, la façon dont on se répond, etc. Ma coupe déborde. Voilà ce qui se passe quand l'Éternel est notre berger. Oui, la coupe déborde, c'est ce que Jésus dit, que des fleuves d'eau vive, on ne peut pas le contenir. Et c'est vrai qu'on pourrait quand même être honnête devant Dieu. Il dit, mais c'est vrai, qu'est-ce qui déborde de ma vie? Eh bien, restons dans sa présence. Et je peux vous dire que son huile débordera. Je termine avec la parole, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le oui, ça veut dire que s'il n'y avait pas la grâce, ça serait non. Parce qu'il pourrait être écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand il y a écrit oui, ça veut dire que grâce à la grâce, eh bien, ça ne peut pas en être autrement. Dieu m'accompagnera. Mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que ça veut dire la grâce m'accompagne? Dieu m'accompagne, parce que la grâce est le Seigneur. La grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Ça ne vous rassure pas? Moi, quand j'entends comment on va faire, l'Église à la fin des temps, les temps difficiles, ben oui, alors, la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Si l'Éternel est mon berger, c'est sûr. Ouais, j'ai pas terminé quand même. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse d'habiter dans la maison de l'Éternel? Je vais vous dire quelque chose. Ça fait une semaine que j'y réfléchis. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il a dit qu'il est allé nous préparer une maison, des maisons. Vous avez votre maison au ciel. Vous n'avez pas décidé les plans, mais vous inquiétez pas. La maison, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Dieu vous en délivrera. L'autre jour, vous savez, ils ont, aux infos, je regardais là sur Google. Écoutez, ce n'est pas une blague. Hein. Je regardais sur Google quand cet astronaute est parti dans la station. Vous me suivez? Il est à 350 km d'altitude. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Vous avez vu des photos de l'ISS, de la Terre? Vous allez me dire où il va? Non, je ne fais pas notre AVC. Je suis en train de vous expliquer quelque chose de merveilleux. L'ISS, elle est à 350 km de la Terre. La Nouvelle Jérusalem, elle sera à 2000 km de haut. Est-ce que vous réalisez la grandeur de ces paroles? J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Je ne sais pas à quel étage, mais déjà à 18%, donc à 350 km, ceux qui ont le vertige, vous n'aurez pas le vertige. Mais est-ce que vous réalisez la grandeur de cette ville? Est-ce que vous voyez, parce que quand vous allez sur Internet, Nouvelle Jérusalem, ils vous montrent des petits trucs là, c'est vraiment des trucs minuscules. Il faudrait présenter une ville de 2000 km de large, 2000 km de haut. C'est la maison du Seigneur. Et Dieu qui a dit ces choses, bien sûr nous on le lit, quelqu'un m'a dit l'autre chose, mais est-ce que c'est important? Oui, c'est important qu'on sache que Dieu est grand. Il est très très grand. Et il va faire de grandes choses. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. On a besoin de savoir ça. Et si on était sérieux, vraiment sérieux, si on apprenait, j'ai appris ça, j'ai appris dans l'abondance, j'ai appris dans l'épreuve, j'ai appris à être content, j'ai appris à aimer mes frères, j'ai appris de Dieu, on est compte, il y a des choses, on les apprend vraiment du Seigneur. On dirait, Seigneur, voilà, on va caler cet psaume 23 et je vais rester dans ta présence jusqu'à ce que ma coupe déborde. Jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent tout à nouveau. Moi, je veux apprendre, pas pour en mettre plein la vue, je veux apprendre pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Je veux apprendre parce que les autres autour de moi, ils ont besoin de moi. Dimanche, il y avait 3 ou 4 personnes nouvelles. Elles m'ont dit, on a besoin d'une église qui nous nourrisse. Et voilà, mais c'est bien. Et on participera à cette affaire. Vous avez envie de participer à ce travail? Voilà. Eh bien, Seigneur, tu seras vraiment mon berger. On ne va pas être comme l'acteur qui, les gens ont dit, mais comme le vieillard où tout le monde s'est tu. Parce que, vous voyez, lui connaît le berger. Est-ce que vous avez envie qu'on vous dise à vous, mais moi je sais que tu connais le bon berger. Tu es pentecôtiste? Non, je suis baptiste, ça ne veut rien dire. Par contre, quand quelqu'un connaît le bon berger, oui, là ça veut dire quelque chose. Alléluia. Vous êtes d'accord pour qu'on se remette au travail et qu'on puisse témoigner autour de nous que la coupe déborde. Si vous voulez que votre coupe déborde, mais prions ensemble quelques instants. Éternel notre Dieu, comme l'apôtre Paul a appris, nous voulons continuer à apprendre, non pas dans notre tête, non pas que dans notre intelligence, mais comme ce vieillard qui te connaissait, comme David te connaissait, et savait que dans toutes les circonstances, dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dans les verts pâturages, comme dans les cavernes, il savait que tu connais notre sentier. Tu connais notre sentier, Seigneur. Tu nous connais. Alors nous te prions de nous conduire vraiment. Que nous aimions la justice. Que nous aimions réaliser que bientôt nous habiterons avec toi. Que nous pouvons, oui, t'admirer vraiment. Puisque tu allais dans le ciel nous préparer une place. Oui. Nous habiterons pour l'éternité dans la maison de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.